Voilà, je vous propose de poursuivre notre étude de la prière de Jésus dans Jean 17. Et ce matin, on va s'attacher aux versets 14 et 15. Jean 17, versets 14 et 15. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés. » parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Alors, je vous rappelle le contexte de cette prière de Jésus. Jésus a peu de temps à vivre encore, il lui reste peu de temps. Et la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce que je ferais s'il ne me restait plus que quelques heures à vivre? Jésus a passé beaucoup de temps avec les gens autour de lui. Il s'est occupé des malades, des démoniaques, des nécessiteux. Et dans les derniers moments de sa vie, il a une préoccupation, c'est ses disciples. Jésus va partir, mais il sait que ses disciples vont rester. Et vraiment, c'est ce qui le préoccupe dans les derniers moments de sa vie. D'ailleurs, ce n'est pas seulement à ses disciples qu'il pense, ceux qui sont près de lui à ce moment-là, mais c'est aussi à nous. Puisqu'il le dit plus tard dans sa prière, « Je te prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » On a vu qu'il y a 7 sujets de prière, en fait, dans cette prière de Jésus. Le premier sujet, la première chose qui préoccupe Jésus, c'est qu'ils puissent être glorifiés à travers eux dans la suite des temps. C'est vraiment la mission principale que nous avons dans ce monde, c'est que Jésus puisse être visible à travers nos vies. C'est la première chose que Jésus demande. Lui, Jésus, va disparaître. Il a laissé son témoignage dans les évangiles et n'importe qui dans ce monde peut découvrir qui est Jésus en lisant l'évangile. Mais pour que les gens aient une idée de qui était Jésus, eh bien, c'est ses disciples qui sont maintenant le canal par lequel les gens peuvent se faire une idée. Est-ce que nous réalisons la mission qui est la nôtre en tant que chrétiens, mais aussi en tant qu'Église? Eh bien, que nous puissions donner cette idée de qui était Jésus à travers ce que nous sommes, ce que nous vivons ensemble. Le deuxième sujet de prière, c'était que les disciples soient gardés dans la communion avec lui. Qu'il soit uni à lui comme lui était uni au Père. Et je crois que c'est le sujet central de la prière de Jésus. Tout se joue ici. Si nous perdons la communion avec lui, nous perdons ce qui fait notre vie, notre force et aussi notre rayonnement. Et je pense que tout est fait dans ce monde pour que nous puissions nous éloigner de Jésus, ou nous divertir, hein, faire autre chose, nous préoccuper d'autre chose. Le diable, le monde, fera tout pour que nous puissions passer du temps à tout, sauf dans notre relation avec Dieu. Que nous ne prenions pas le temps de cultiver notre relation avec Dieu. Parce qu'il sait que c'est là que se trouve la force du chrétien et la force de son témoignage. Et on comprend que Jésus prie pour cela, parce que c'est vraiment l'axe central de notre vie. Le troisième sujet de prière de Jésus, c'est que sa joie habite en nous. Et on comprend bien que les sujets de prière sont liés les uns aux autres. Sa joie ne peut pas habiter en nous si notre communion n'est pas intime avec lui. Il appelle sa joie une joie parfaite ou complète. Ce n'est pas une joie éphémère, superficielle, une joie profonde. C'est à cela que Jésus nous appelle. Et quelque part, ce qui nous permet d'attirer les autres vers lui, c'est la joie qui nous habite aussi. Ça ne veut pas dire que le chrétien ne connaît pas d'épreuves, comme on l'a lu, qu'il ne passera pas par la souffrance, mais il y a cette note de joie quand même, qui est liée à l'espérance que nous avons en lui. Quelque part, nous devons pouvoir dire à ceux qui nous entourent qu'une heure dans la présence du Seigneur vaut mieux pour nous que 1000 ailleurs. Je crois que c'est vrai, moi je le vis en tout cas tous les jours. Les meilleurs moments, c'est ces moments de communion avec lui. Quand je lis sa parole, quand je comprends des choses, il y a une joie qui est là, profonde, que rien ne peut rivaliser. Ce matin, on va aborder le quatrième sujet de prière que j'ai lu ici. C'est que nous avons, cette sujet de prière, elle porte sur le danger qui est là et le besoin de protection que nous avons dans notre vie. Je relis, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » On va prendre chacune de ces phrases l'une après l'autre. Jésus nous donne la raison première de la haine du monde à notre égard. Cette raison première, c'est qu'il nous a donné sa parole. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, dit-il au verset 14. Pourquoi y a-t-il cette haine du monde vis-à-vis de la parole de Dieu? En fait, que nous en soyons conscients ou non, nous fonctionnons tous selon un certain système de pensée. Il y a des choses dans notre vie que nous tenons pour vraies, et parce que nous pensons qu'elles sont vraies, nous nous conduisons de telle ou telle manière. Si je crois que la seule réalité qui existe dans le monde est matérielle, alors j'adopterai un style de vie qui découle de cela. Paul le dit dans Corinthiens 15, « Si nous pensons que la seule vie qui existe est la vie présente, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » En fait, chaque homme a un système de pensée qui régit sa vie. Et à partir de ce système, il construit des raisonnements et un comportement. Et nous, bien sûr, en tant que chrétiens, nous avons changé de système de pensée. Avant de connaître le Christ, nous fonctionnons comme les autres, hein, d'une certaine façon. Nous vivions selon les principes qui régissent ce monde, dit la Bible. Mais nous avons changé de royaume. Nous avons été renouvelés dans notre intelligence par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, et nous ne vivons plus selon les valeurs anciennes du monde. L'apôtre Jean nous dit dans sa première lettre que le monde fonctionne selon trois principes. La convoitise de la chair, c'est-à-dire la satisfaction des appétits de la nature humaine, satisfaction immédiate. La convoitise des yeux, l'envie, la soif de posséder ce que les autres ont. Et puis le troisième, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Le désir d'être reconnu, admiré, le désir de dominer, de briller. Ça, ce sont les trois grands axes qui régissent la vie des gens du monde. Qu'ils soient religieux ou non, c'est pareil. Et d'ailleurs, on se rend compte que les mêmes péchés sont vécus dans les domaines religieux que dans le paganisme, par exemple. Mais en tant que chrétiens, nous avons adopté d'autres buts. Nous avons considéré et nous considérons qu'il y a d'autres vertus bien meilleures que celles que le monde nous propose. Je suis en train de lire la lettre de Paul aux Colossiens et il nous donne quelques exemples de cette mentalité nouvelle qui habite les chrétiens. Il dit « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Ce n'est pas vraiment ce qui est en vogue dans le monde. L'humilité, la compassion, la douceur. La Bible Les épîtres nous appellent à cultiver le contentement plutôt que la poursuite des choses vaines ou l'accumulation des richesses. Dans son épître, Paul nous appelle à nous soumettre aux autorités, aux chefs que nous avons, plutôt que de revendiquer et d'être en colère face aux autorités. Tout ça, ça fait partie d'un renouvellement de mentalité. On ne pourrait pas le faire si on n'avait pas un Seigneur auquel on est attaché, que l'on aime par-dessus tout, et que l'on veut refléter et dont on veut témoigner par nos vies dans ce monde. En fait, la haine du monde contre les disciples ne vient pas des choses qu'ils feraient pour provoquer cette haine. Les disciples du Christ ne font pas d'attentat, ils ne cherchent pas à renverser l'ordre établi, ils ne descendent pas dans la rue avec des slogans injurieux incitant à la révolte. Mais la haine du monde, c'est comme un effet miroir. Elle vient du fait que ce que nous représentons, les valeurs et les principes par lesquels nous vivons, sont une dénonciation des choses qui sont mauvaises dans le monde, tout simplement. Alors nous sommes un peu dans une société post-chrétienne, vous le savez. Pendant longtemps, la civilisation occidentale a eu un vernis chrétien. Et nous pouvons penser que les gens apprécient encore les valeurs chrétiennes, mais c'est en train de disparaître tout cela. Et ce que les autres vivent dans d'autres continents où ils sont persécutés, où ils sont haïs à cause de leur foi, c'est aussi ce qu'on est appelé à vivre un jour, peut-être. Sous le vernis chrétien, la même haine du monde est présente. Il ne faut pas se leurrer. Et si ce vernis disparaît, eh bien, nous allons avoir en face de nous des gens qui nous haïssent à cause de ce que nous représentons, à cause des valeurs que nous portons et surtout du témoignage que nous rendons, bien sûr, à notre Seigneur. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4 une parole qui nous concerne, une parole qui touche au dernier temps. Et vous la connaissez certainement, cette parole. Il parle d'un temps qui viendra. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Un temps viendra où les hommes ne supporteront pas. Il y a une réaction allergique, épidermique, on pourrait dire. Et il y a des personnes, il suffit de porter le nom de Jésus sur un maillot ou de prononcer. On voit déjà cette réaction qui est là. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Pourtant, il n'y a rien de mauvais dans la parole de Dieu quand on y réfléchit. Tout ce qui nous est dit est bon pour la société, pour les relations, pour les familles, les enfants. Mais cette saine doctrine, elle est renversée. Aujourd'hui, il y a une inversion morale. Ce qui était bon autrefois ne l'est plus. Et ce qui est mauvais devient acceptable et même souhaitable. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tout tourne autour de ça aujourd'hui. Agréable. Il ne faut pas que ça me gêne dans ce que je veux vivre, dans le développement de ma vie, de mes envies, de mes passions. Je veux entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison, c'est plus fort qu'eux. Et forcément, quand nous venons avec un message qui nous parle de la corruption de l'homme, de sa responsabilité, de sa culpabilité, de la nécessité d'une repentance, quand nous parlons du jugement de Dieu, de la colère de Dieu qui va venir, ce n'est pas des choses agréables. Mais ce sont des choses essentielles qui sont comme une médecine pour nous guérir et nous donner, comme on l'a lu, un avenir et une espérance. Parce qu'ils veulent des choses agréables, alors ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ils vont croire des choses qui sont fausses, qui n'ont pas de fondement, qui ne correspondent à rien. Et dernièrement, j'ai vu sur Internet qu'il y a une jeune fille ou un jeune homme, je ne me rappelle plus, qui a vécu une transition de genre et qui a porté plainte contre le psychiatre qui l'a encouragé. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est une fable. Vous m'avez fait croire des choses fausses. Et j'ai suivi votre conseil. Nous sommes dans cette époque où les gens préfèrent croire des choses fausses plutôt que d'écouter la vérité. La première cause de la haine du monde contre les disciples de Jésus, c'est la pensée de Dieu. C'est le fait que Dieu nous appelle à vivre de façon différente de celle du monde. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes des non-conformistes. Ne vous conformez pas à la pensée de ce siècle, mais vivez selon l'intelligence nouvelle que vous avez reçue. Je vais vous lire une citation de Martin Luther King. Il disait « Nous sommes appelés à être des hommes de conviction et non de conformisme, de noblesse morale, non de respectabilité sociale. Nous avons reçu ordre de vivre différemment et selon une fidélité plus haute. Il nous faut retrouver la flamme évangélique des premiers chrétiens qui furent des non-conformistes au sens le plus vrai du mot et qui refusèrent de régler leur témoignage sur les perspectives du monde. Volontairement, ils sacrifièrent réputation, fortune, vie même à une cause qu'ils savaient être juste. Petits par le nombre, ils furent des géants par la qualité. La puissance de leur évangile mit fin à des plaies barbares, comme l'infanticide et les combats sanglants des gladiateurs. Finalement, ils gagnèrent à Jésus-Christ tout l'Empire romain. » Certes, c'était le début de l'évangile. Nous sommes plutôt dans une civilisation qui le rejette. Mais nous sommes appelés à être les mêmes témoins non-conformistes. Nous devons dire que nous n'acceptons pas certaines choses et que nous vivons selon d'autres principes. Le premier point, donc, c'est que les disciples sont haïs à cause de la parole. Ensuite, Jésus dit « Le monde les déteste parce qu'ils ne sont pas du monde. Ils sont d'un autre monde, d'un autre royaume. » En fait, ici-bas, nous sommes... On peut dire on est habité par une double citoyenneté. Nous sommes à la fois citoyens de notre nation, du pays dans lequel nous vivons, mais nous sommes aussi citoyens du royaume des cieux. Et parfois les deux se heurtent l'une contre l'autre. L'apôtre Paul dit « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » C'est dans Philippiens 3:20. Par rapport aux témoins anciens, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham en route, qui vivait sous tente, Jacob, Isaac, tous ceux qui nous ont précédés, avaient les regards fixés sur la patrie céleste. Ils en étaient conscients. Pourtant, ils n'avaient pas tous les éléments qu'on a, toute la connaissance. Mais déjà, ils étaient en route vers cette cité. Et ils savaient qu'ils étaient que de passage ici. Alors, nous sommes aussi porteurs d'une double citoyenneté. Et parfois, comme je l'ai dit, ce statut pose problème. Je ne sais pas si c'est vrai, je crois, Biska, tu ne peux pas être à la fois indonésienne et française. Faut que tu choisisses. C'est ça? Ouais, sinon, ça ne va pas. Alors, c'est vrai aussi pour nous, par moment. Tant que nous sommes, je dirais, en connexion avec les choses qui sont dans notre pays, on est admis. Mais il peut y avoir des moments où notre citoyenneté céleste entre en conflit, où il faudra choisir à qui je veux prêter allégeance, au royaume de Dieu ou aux royaumes qui sont sur terre. On a beaucoup d'exemples dans la Bible d'hommes qui ont dû choisir. Si vous pensez à Daniel, dans le livre de Daniel, lorsque le roi Nebuchadnezzar a imposé à tous ses sujets d'adorer la statue qu'il s'était faite, les trois amis de Daniel ont refusé cette allégeance. Et ça leur a valu de passer par la fournaise terrible. Ils ont été préservés. Mais dans d'autres pays, ils payent vraiment le prix parce qu'ils ne peuvent pas adhérer à ce qu'on leur impose. Je discutais avec Eric ce matin, il me disait que certaines fois dans... doivent passer des pubs hein, avec des commerces. Alors certains veulent mettre la promotion d'Halloween, par exemple. Donc il doit refuser. Je peux pas être d'accord. Daniel aussi a dû obéir, a dû être prêt à payer le prix de son allégeance à Dieu quand on lui interdit d'adresser des prières à un autre roi que le roi de Perse. Eh bien, il a continué à le faire. Et il y a des moments où la désobéissance civile sera nécessaire si nous voulons être fidèles au royaume de Dieu. Nous sommes dans un système qui tend de plus en plus vers la mondialisation, vous le savez. Et cette mondialisation veut faire de chacun d'entre nous un citoyen du même monde. On va tous être citoyens du même monde. Déjà aujourd'hui, on le sait. Les citoyens français doivent se soumettre à l'Europe. Ce n'est plus la France qui décide, c'est l'Europe qui dicte les règles pour notre pays. On peut être d'accord avec ça ou pas, mais c'est une réalité. La Bible parle d'un jour d'un système mondial où tous devront être marqués d'une certaine manière pour être reconnus dans ce système. Et dans Apocalypse 13, qui parle de cela, il est dit que la bête de ce temps-là fera la guerre aux saints. Pourquoi? Parce que les saints possèdent une autre marque, c'est celle du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas porter les deux marques en même temps. Il y aura des conditions qui seront là telles qu'il faudra choisir est-ce que je fais partie du monde ou est-ce que je fais partie du royaume de Dieu. Jésus ne nous cache pas qui est derrière tout cela. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal ou du malin, suivant les traductions. C'est le même mot qui se trouve dans la prière de Jésus, dans le Notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais préserve-nous du malin, le malin. À propos du malin, l'apôtre Jean dit deux choses. Dans 1 Jean 5, 19, il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. L'apôtre Jean nous dit qu'il n'y a que deux camps possibles. Il y a ceux qui sont sous la puissance du malin et ceux qui sont sous la puissance de Dieu. Alors ça ne se voit pas tous les jours que les gens qui nous entourent sont sous la puissance du malin. Hein. Ils sont peut-être très sympas avec nous. Nos collègues, nos voisins. Mais ne nous faisons pas d'illusions, le temps peut venir où ils peuvent se dresser contre nous, parce qu'ils ne sont pas du même monde que nous. Judas était un ami de Jésus, ce n'était pas un ennemi, et pourtant c'est lui que le diable a investi pour trahir Jésus. Et dans Matthieu 10, 36, Jésus, qui était très lucide, a dit: chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, Même si sur le plan humain, il peut y avoir des sympathies, des amitiés, tout cela, on ne doit jamais oublier qu'ils sont pas, ceux qui ne sont pas à Dieu ne sont pas du même monde. Ils sont sous la puissance du malin. C'est la première chose que dit Jean. Ensuite, il dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » C'est une parole encourageante. Pourquoi? Parce que elle s'adresse aux petits-enfants, pas à ceux qui sont mûrs, hein, les pères dans la foi, mais toi, qui es peut-être jeune dans la foi, eh bien, Jésus vit en toi, et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu peux recevoir par l'Esprit de Dieu une force qui est extraordinaire et qui te permet de résister malgré tout à la puissance du monde. Et c'est toujours intéressant de lire l'histoire du passé. Il y a des livres qui existent sur le témoignage des premiers chrétiens. Il y a un livre qui s'appelle « Le livre des martyrs » qui montre que des tout jeunes chrétiens, des enfants, ont su résister, dire non, parce qu'ils avaient en eux l'Esprit de Dieu. Il vit en nous et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Les choses peuvent devenir compliquées et difficiles, mais au moment voulu, il est capable de nous donner la force, de tenir ferme et de rester fidèle. L'apôtre Paul nous a dit que notre combat n'était pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations, des autorités qui sont dans le monde invisible, qui influencent les hommes et qui cherchent aussi à persécuter, à faire du mal aux enfants de Dieu. Et il nous a donné le descriptif d'une armure qui nous aide à résister. On va juste lire ce passage, Éphésiens 6, versets 10 à 18. Il faudrait prendre bien sûr tout un message pour cela. On va simplement se souvenir des sept armes que nous avons pour pouvoir résister. Alors le combat spirituel, ce n'est pas des grandes choses démonstratives, comme on peut le voir parfois, des gens qui crient, qui se roulent par terre, ça n'a rien à voir avec ça. La Bible dit que nous avons notre force en Christ. Éphésiens 6, 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde invisible, dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ce sont des armes qui sont dans la personne de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et donc ensuite, il y a sept armes qui nous sont données. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Saignez-vous, saignez votre pensée. Saignez, c'est pas saigner, hein, c'est cendre. Saignez, ça se dit aussi comme ça, oui. Saignez votre pensée par la vérité de la parole de Dieu. C'est la première arme. Que nos pensées soient filtrées par la vérité de la parole de Dieu. Revêtez-vous ensuite, enfilez la cuirasse de la justice. Apprenez à développer une vie juste, en quelque sorte. Nous sommes justes grâce à Jésus, mais nous devons grandir dans la justice. Et plus nous grandissons dans la justice, moins nous sommes attaquables. Qui peut nous attaquer si nous sommes habités, protégés par la cuirasse de la justice? Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile. En fait, c'est ce qui a permis aux martyrs de triompher de leurs persécuteurs. Dans Apocalypse 12, il a dit, ils ont vaincu l'accusateur, le diable, grâce au sang de l'agneau, parce que nous sommes justifiés par Jésus, même si on nous accuse, et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé la vie au point de craindre la mort. Personne n'a pu éteindre le zèle. Ils étaient prêts à donner leur vie. Vous pouvez nous menacer de mort, mais nous savons où nous allons. Nous avons une espérance. Et à cause de cela, ils ont pu résister et triompher. La quatrième arme, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. La foi est un bouclier pour nous, certes invisible, mais efficace. Rappelons-nous de David qui s'est confronté à Goliath. Il n'avait rien à part sa fronde, mais il avait un bouclier. C'était le bouclier de la foi en Dieu, dans ses promesses. Et il a pu résister à Goliath, à ses attaques. Le casque du salut, ensuite. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Le casque du salut, il est pour la tête. Ce sont les promesses que Dieu nous a données et qui nous donnent une assurance face aux doutes, aux accusations. Nous devons nous reposer sur ce que Dieu a dit par rapport à notre salut. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes justifiés. Et rien ne peut nous séparer de lui. Ensuite, nous avons des armes offensives, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, ce que Jésus a utilisé contre le diable. Il est écrit, il est resté sur un terrain solide. Il n'a pas écouté ses sentiments, ni même ses besoins quand il avait faim. Il est écrit. C'est la position spirituelle que nous devons prendre et qui se fonde sur la parole de Dieu. Et puis la dernière arme, est au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » C'est la connexion avec le quartier général, avec le chef, par l'Esprit dans la prière. Alors Jésus a prié pour notre protection parce qu'il sait que nous sommes, et nous devons être conscients que nous sommes dans un combat. Nous sommes sur un terrain ennemi. Nous ne sommes pas dans une société qui nous est favorable. Et même si nous avons l'impression que l'humanisme, le christianisme a pu adoucir tout cela, la réalité profonde, c'est que le monde déteste les chrétiens, et déteste Dieu, et déteste le Christ qui a été envoyé, et que cette haine est toujours présente. La parole de Dieu est la constitution à laquelle nous nous référons pour mener notre vie. Notre citoyenneté est celle d'en haut, d'abord, et elle prime sur la citoyenneté terrestre. Et il y a des moments où nous devons être prêts à être des marginaux, des non-conformistes. Nous sommes en décalage avec les valeurs de ce monde parce que nous adhérons à un autre royaume. Et nous devons nous souvenir que nous avons à nous revêtir de l'arme de Dieu dans la vie quotidienne et la garder même quand on a tout surmonté, dit Paul. Parce que parfois, quand on a triomphé de quelque chose, on se relâche, ça y est, maintenant c'est bon. Non, on doit être constamment sur nos gardes. Je voudrais terminer avec un verset de 1 Corinthiens 15, 58 qui est l'encouragement de Paul à la fin du chapitre sur la résurrection, donc un chapitre qui nous ouvre l'horizon qui est le nôtre pour toujours, il dit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. » Voilà, que Dieu nous donne de pouvoir aussi revêtir les armes et continuer notre marche en ayant les regards fixés sur Jésus et sur l'espérance qui s'attache à son appel, comme dit la Bible. On va encore prier ensemble.